Bonsoir. Jean-Pierre Bemba Gombo, Adolphe Mouzito, Antoine Gizenga et Jean-Paul Moka déclarés inéligibles à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. La Cour constitutionnelle a rendu ses arrêts lundi et mardi dernier dans la soirée. Clôture mardi dernier à Pékin, en Chine, 17e forum économique entre l'Afrique et la Chine. Au cours de ses assises, la Chine a promis d'investir 60 milliards de dollars en Afrique. Tels sont les thèmes principaux de ce soir dans Tribune de la Presse. Nous avons autour de cette table Baudouin Saïlé, il est journaliste et éditeur de la Tchopo, journal paraissant à Kinshasa. Bonsoir Baudouin Saïlé.
Bonsoir, bonsoir chers confrères.
J.R. Mokolo, journaliste et producteur du magazine d'information ACCTV, une chaîne émettant de Kinshasa. Bonsoir J.R. Mokolo.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi, la radio de la paix.
Et Gaston Mouchidi, journaliste et directeur général de la radio-télévision Manika à Kolwezi, province de Lualaba. Bonsoir Gaston Mouchidi.
Bonsoir Guy Maté.
Bienvenue à tous dans cette émission. Mais avant de commencer les débats, nous allons écouter comment la presse chinoise a traité l'actualité de la semaine. On écoute donc Alain Hirung dans cette revue de presse qu'il nous propose.
Bonsoir. Après Jean-Pierre Bemba et Adolphe Mouzito, Antoine Gizenga et Jean-Paul Moka ont aussi été définitivement écartés de la course à la présidentielle de décembre, rapporte La Prospérité. L'arrêt de la Cour a mis fin aux ambitions présidentielles de ces deux candidats qui ont épuisé toutes les voies de recours pour plaider leur cas, indique le journal. Le patriarche Antoine Gizenga ne prendra pas part à la présidentielle du 23 décembre 2018 à cause de la signature des formulaires ad hoc par une personne sans qualité, en l'occurrence son fils Gizenga Lougui, secrétaire permanent du Palou, explique le phare. Pour le potentiel avec ces invalidations, le FCC peut bien baliser le chemin pour la victoire de son candidat. Jean-Pierre Bemba, dont la candidature a été invalidée définitivement par la Cour constitutionnelle, est sorti de sa réserve. Le président du mouvement de libération du Congo dénonce une parodie de scrutin prévue le 23 décembre prochain, rapporte Forum des As. Lambert Mende, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, a accusé de son côté Jean-Pierre Bemba de politiser la décision de la Cour constitutionnelle, renseigne l'avenir. Lambert Mende conseille à Jean-Pierre Bemba, candidat recalé, de considérer qu'il y a une vie en dehors de la fonction présidentielle, conclut casinfo.ca. Sami Badibanga et Marie-Josée Ifoku rentrent dans la course, indique pour sa part La Prospérité. La requête de l'ex-premier ministre Sami Badibanga a été déclarée recevable et fondée. Sami Badibanga, qui a affirmé prouver qu'il bénéficie d'un arrêté ministériel signé par le ministre de la Justice dans lequel il a recouvré sa nationalité congolaise, a eu finalement raison contre l'avis de la CENI, renseigne le tabloïd. La rentrée scolaire 2018-2019, lancée le lundi 3 septembre, n'a pas échappé aux projecteurs des journaux quinois. Sur le plan socio-économique, constate Forum des As, la rentrée scolaire 2018-2019 ressemble à celle des années antérieures. La plus grande caractéristique reste les plaintes des parents, qui pour la plupart déclarent ne pas être prêts pour envoyer leurs enfants à l'école, détaille Le Quotidien. Avec des parents incapables de prendre correctement en charge leurs enfants, des enseignants dont le salaire ne représente pas grand-chose, on ne peut que s'attendre à un niveau d'enseignement au rabais, conclut Capsule.net. Dans le domaine de la santé, la maladie à virus Ebola fait déjà un décès à Butembo. En croire Actualité.cd, qui cite les autorités sanitaires, la victime est décédée mardi à l'hôpital universitaire de Butembo. À lire la une des casinfo.ca qui relaie un communiqué du ministère de la Santé publique, plus de 6000 personnes ont déjà été vaccinées au Nord Kivu, notamment à Mabalako, Beni, Mandima, Oicha et Katwa.
Merci à vous Alain Hirung. Un petit commentaire, Baudouin Saïlé, vous êtes journaliste et éditeur de la Tchopo, journal paraissant à Kinshasa. C'est quoi l'actualité que vous commentez ce soir?
Je suis en contact permanent avec ma base à Kisangani et j'apprends que la pluie tombe presque tous les jours à Kisangani et lorsqu'il pleut, partout il y a la boue. Lorsqu'il fait chaud, partout il y a la poussière. Voilà.
Voilà. C'est ça l'actualité de la semaine.
Oui.
Voilà. J.R. Mokolo, journaliste et producteur du magazine d'information ACCTV, une chaîne émettant de Kinshasa. Vous commentez quelle actualité?
Oui, moi, je vais revenir un peu sur la tripartite du CENSA, censée évaluer l'accord de la Saint-Sylvestre et surtout la mise en œuvre des mesures de décrispation d'une tripartite qui a commencé et qui ne s'est jamais terminée et pratiquement qui est renvoyée au calendrier grec. Je voudrais aussi revenir sur, par exemple, la répression le lundi de la marche organisée dans différentes villes de la République démocratique du Congo par la Lucha pour déposer des mémos à la CENI contre l'usage de la machine à voter, de manifs qui ont été en tout cas étouffés par la police brutalement. Il y a eu des blessés, il y a eu des personnes arrêtées. Et aussi, nous rappelons par exemple le week-end dernier à Lubumbashi, Kyungwa Kumwanza aussi n'a pas pu en tout cas tenir sa manifestation. Et je me rends compte que ceux qui sont au pouvoir, ils ont droit à tout. Et ceux qui sont en dehors du pouvoir n'ont droit à rien du tout. Donc les mêmes lois de la République s'appliquent d'une manière à ceux qui sont au pouvoir et d'une autre manière à ceux qui ne sont pas au pouvoir. Donc c'est de l'injustice, ça crée des frustrations. Et ce n'est pas une bonne chose. Je termine en lançant par exemple un appel à la communauté internationale qui a dépensé des milliards dans ces pays. Il y a des casques bleus qui sont morts, mais je me rends compte que les conditions qui avaient prévalu à l'arrivée de la MONUSCO au Congo sont en train pratiquement d'être reconstituées. C'est comme si des milliards de dollars des casques bleus tués l'ont été en tout cas pour rien.
Gaston Moufli, journaliste, directeur général de la radio-télévision Manika à Kolwezi, province de Lualaba. C'est quoi l'actualité qui domine aujourd'hui à Kolwezi?
Il faut dire que Lualaba, c'est la tenue du 12 au 14 septembre à Kolwezi, des journées minières de la RDC. Partout quand on passe, c'est des banderoles, c'est des affiches qui annoncent avec pompe la tenue de ces assises, en fait, qui sont des journées de réflexion autour de l'exploitation minière de cuivre et cobalt. Bon, la province du Lualaba est le chef-lieu comme capitale économique de ce produit.
Merci, nous abordons notre premier thème de ce soir. Jean-Pierre Bemba Gombo, Adolphe Muzito, Antoine Gizenga et Jean-Paul Moka déclarés inéligibles à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. La Cour constitutionnelle a rendu ses arrêts lundi et mardi dernier dans la soirée. Il s'agit des arrêts dans les dossiers opposant les candidats présidents de la République dont les candidatures ont été rejetées à la CENI. Contrairement à Jean-Pierre Bemba et Adolphe Muzito, l'ancien Premier ministre Sami Badibanga et l'ancienne vice-gouverneure de l'Équateur Marie-Josée Ifoku ont obtenu gain de cause. La Cour ordonne à la CENI de remettre leur nom sur la liste des candidats à l'élection présidentielle. S'agissant d'Innocent Mavungu qui a introduit son dossier en retard, la Cour s'est déclarée incompétente de statuer. Innocent Olenga pour les détails.
Malgré la bataille juridique de ses avocats, la Cour a confirmé l'inéligibilité de Jean-Pierre Bemba pour subornation des témoins. Le péché d'Adolphe Muzito, selon la Cour constitutionnelle, c'est d'avoir annoncé sa démission du Palou tout en gardant les sièges de député national obtenus grâce à ses partis à l'Assemblée nationale et dont il s'est prévalu dans tous les documents déposés à la CENI. Aussi, la Cour reproche-t-elle à l'ancien Premier ministre la contradiction entre sa lettre de prise d'acte de suspension du parti et celle de sa démission qui prête, selon la Cour, la confusion au niveau de la base électrice. Elle a confirmé les conflits d'intérêts, motif évoqué par la CENI pour rejeter sa candidature. Quant à Sami Badibanga et Marie-Josée Ifoko, récalés par la CENI pour défaut de nationalité, la Cour reproche à la centrale électorale d'avoir pris sa décision au mépris des preuves valables de la nationalité lui présentée. Les deux vont être repris sur la liste définitive des candidats à la présidentielle. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour statuer les cas d'Innocent Mavungu ayant introduit sa candidature au-delà de la date légale fixée par la CENI. Les verdicts sur les requêtes de Gizenga et Moka seront rendus ce mardi.
Justement, la Cour constitutionnelle a aussi rendu ses arrêts mardi dans la soirée dans les affaires Antoine Gizenga et Jean-Paul Moka. Les deux candidats sont déclarés inéligibles. La Cour a ainsi entériné les décisions de la CENI, reprochant au Palou les défauts de qualité de son mandataire et au Mouvement Bleu la non-traçabilité des preuves de paiement à la banque. Baudouin Saïlé, journaliste et éditeur de la Tchopo Journal Le Parisien à Kinshasa, sur les 6 candidats invalidés par la CENI, 2 ont été repêchés et 4 écartés définitivement de la course à la prochaine présidentielle. Est-ce que vous vous attendiez à cette décision de la Haute Cour ou vous avez été surpris?
Non, d'ailleurs je ne suis même pas concerné de près ou de loin, ce sont des candidats. La démocratie est dans, il doit fosciller à gauche et à droite. Mais je dis ceci, à l'époque où nous avions appris que la vice-présidente Bemba était libérée, j'étais dans une des émissions à la télévision où j'avais prodigué des conseils sages. J'avais dit que, moi je suis Moussoko, de Kisangani Mobango, chez nous il y a un problème qui dit Inga Ligbeta. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous connaissez la chenille, hein? La chenille s'accroche soit à l'arbre, soit à une feuille de l'arbre. par un coup de vent, tout et tout, la chenille déséquilibrée tombe. Et quand elle tombe, elle se repose. Elle attend que les nerfs soient rétablis pour qu'elle reprenne la voie vers quelqu'un de décidé. Vous comprenez?
Donc vous auriez souhaité que Bemba ne puisse pas postuler.
J'avais donné des conseils à Bemba. Parce que moi, je connais Papa Bemba. Hein, je ne connais pas les fils, je connais Papa Bemba qui était un ami qui lisait beaucoup la Tchopo. Et j'avais dit à Bemba que vous venez de faire 10 ans en dehors de la famille. Comme vous venez de sortir de la prison, reposez-vous. Reposez-vous, reprenez des contacts mollo-mollo jusqu'à ce que vous ayez des nerfs solides. Un père de famille qui n'est pas présent dans sa famille, auprès de ses enfants, auprès de son épouse, pendant 10 ans, même si madame allait visiter là-bas, tout, mais Bemba fait 10 ans en dehors de sa chambre, de la maison. Vous comprenez? Alors, je ne sais pas quelle était la pression. C'était la pression de famille, la pression politique de ses proches collaborateurs qui étaient Zonga Kakao comme candidat. Ce n'est pas comme ça la vie, papa. Être absent pendant 10 ans, on se repose et on prend un, de deux. S'il voulait, au lieu d'être candidat président de la République, il devait postuler au Sénat. Rentrer à Guémena, devenir député provincial, après il va revenir ici comme sénateur, et après il va se débrouiller pour devenir candidat du bureau. Voilà l'homme.
J.R. Mokolo, journaliste et producteur du magazine d'information ACCTV, une chaîne émettant de Kinshasa. Il y a des analystes qui soutenaient que l'essor de Jean-Pierre Bemba était déjà scellé. Vous venez de suivre Baudouin Saïlé, qui rappelle qu'il avait prodigué des conseils à Jean-Pierre Bemba pour que, étant donné qu'il venait de passer 10 ans à la prison, il devait plutôt se reposer au lieu de postuler.
Bon, en tout cas, avant de pouvoir prendre en charge votre préoccupation, Guimaté, je voudrais d'abord quand même rencontrer la préoccupation de Saïd Mbalaga. Je n'arrive pas à comprendre les théories qu'il est en train de sortir, que quelqu'un... Il était en prison, il devait se reposer en famille, c'est pas, il devait passer 10 ans aussi dans sa chambre à coucher pour se reposer, je ne sais pas. Bemba ne s'appartient pas. Bemba n'appartient même plus à sa propre famille. Bemba, c'est un leader d'opinion qui a deux gens derrière lui qui espèrent en son combat et qui se disaient que non, avec la libération de Bemba, nous avons quelqu'un qui peut quand même postuler et devenir président, pourquoi pas diriger ce pays et le changer. Bemba a des atouts. Et puis, en plus, on ne peut pas demander à Bemba d'enterrer ses ambitions. Il a des ambitions, c'est légitime. Ce n'est pas un péché que de pouvoir vraiment mettre tout en œuvre pour que ses ambitions soient assouvies.
Et au sujet de ceux-là qui pensaient que son sort était scellé, vous pensez qu'il s'est basé sur quels éléments pour réfléchir ainsi?
Ils ont raison de dire que le sort de Bemba a été scellé parce qu'on a vu, par exemple, la démonstration de force quand Bemba est rentré ici, même à Guémena, et il y a même dans certaines villes du pays où les gens se sont retrouvés dans les aéroports pour accueillir virtuellement Bemba. La réalité est que, comme Katumbi Moïse, comme Bemba aussi, faisait peur en tout cas à la majorité présidentielle, c'était des candidats sérieux qui devaient à tout prix débarrasser la forêt électorale pour que les petits arbres Chadar puissent avoir droit aux rayons solaires, comme je l'avais dit l'autre fois.
Et donc vous-même, vous n'avez pas été surpris par la décision de la haute cour?
Non, je n'ai pas été surpris. Et je l'ai dit même le vendredi passé sur ces mêmes studios de radio Capi que je serais surpris si la Cour constitutionnelle ne suivait pas la CENI. Et la Cour constitutionnelle a suivi la CENI pas par hasard. C'est parce qu'il y a un travail qui a été déjà fait bien avant. Vous vous souvenez par exemple de l'ancien avocat de Bemba, Maître Mekilolo, qui a multiplié des sorties médiatiques et une campagne pour démontrer à l'opinion que Bemba ne peut pas être candidat. Vous vous souvenez d'Alain André Atundu Liongo,
lui-même n'est pas là
voilà, pour Atundu Liongo, Nojek Constant Moutamba, il y a le professeur Nyabirungu, tous les communicateurs
de la justice. Et donc vous voulez dire que la Cour était conditionnée?
Tout à fait, la Cour n'a fait que, comme je peux citer le CG de l'UNC, Maître Baudouin Mambeke, qui a toujours l'habitude de dire que la Cour là a joué un disque demandé.
Merci.
Donc c'est un arrêt sur commande qui a été en tout cas rendu par la Cour constitutionnelle, qui n'avait pas d'autre choix que d'obtempérer à la volonté de ceux qui les ont placés là-bas.
Merci Gaston Mouchid, journaliste et directeur général de la radio-télévision Manika à Kolwezi, province de Lualaba. Le MLC de Jean-Pierre Bemba ainsi que le candidat Adolphe Mouzito sont convaincus que la haute cour a été instrumentalisée par les régimes en place. Vous venez de suivre J.R. Mokolo qui partage les mêmes points de vue. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces points de vue?
Je crois qu'il est évident que tout juriste ou tout analyste de la politique congolaise sait que cette affaire n'est pas encore terminée pour le cas de Jean-Pierre Bemba. Vous savez que la justice, tout le monde sait que la justice a été instrumentalisée pour écarter une fois de plus un candidat à la présidentielle, comme on l'a fait avec Moïse Katumbi, on l'a fait avec Jean-Pierre Bemba, et ce n'est pas très étonnant que demain on puisse écarter Félix Tshisekedi, parce que la majorité souhaite écarter les poids lourds de l'opposition pour baliser le terrain et faire passer un candidat. Et là, la question, c'est de savoir si la majorité au pouvoir était une vraie majorité et qu'elle n'avait rien à craindre, pourquoi alors essayer de faire une lutte déloyale? Parce qu'il fallait donner toutes les chances à toutes les personnes qui y ont voulu postuler et voir si la majorité, qui se tape la poitrine, peut gagner, et on va comprendre que c'est la démocratie. Mais là, c'est une guerre illégale, parce que on écarte à travers les instruments qui sont tout à fait bien orientés. Et Baudouin Saïd disait ici que Jean-Pierre Bemba pouvait se reposer dans sa chambre parce qu'il venait de passer 10 ans en prison. Mais je lui pose la question de savoir c'est quelle chambre. Est-ce que Jean-Pierre Bemba a droit à accéder à sa chambre à coucher? Vous êtes à Kinshasa, vous savez qu'il ne peut plus accéder à sa chambre à coucher. Donc ça signifie qu'il y a un problème. Le 17 septembre, si la CPI a quitté Jean-Pierre Bemba de l'infraction de subornation des témoins, qu'est-ce qui va se passer? Parce que nous attendons le verdict de la CPI le 17 septembre. Mais déjà bien avant, les Congos, c'est-à-dire la CENI, a déjà condamné, la Cour constitutionnelle a déjà condamné, et ça, ce n'est pas intéressant pour notre jeune démocratie. Je pense qu'il fallait faire de ces élections un moment où les peuples peuvent choisir ses dirigeants librement. Pas que la majorité au pouvoir ou les FCC doivent choisir le candidat qui doivent compétir à la présidentielle, ça c'est déjà pas très bien. Merci. Et j'aimerais déjà terminer en disant que je suivais Ngoï Kassanji et les autres gouverneurs de l'espace Kassai qui sont en train de battre les campagnes déjà précocement pour Chadari. Et nous avons vu aussi les gouverneurs de l'ex-Katanga en train de se réunir et de voyager de ville en ville pour parler de Chadari. Est-ce que Merci. C'est le moment? Il faut commencer à parler de Chadari aujourd'hui ou il faut attendre le moment de la campagne?
Merci,
je crois
Gaston.
Que les lois de la République doivent être le même pour tous les citoyens.
Merci Baudouin Saïlé. Le MLC n'exclut pas les boycotts du processus électoral et envisage même des actions de terrain. Comment vous réagissez
Merci beaucoup. J'ouvre une petite parenthèse pour dire à mes deux co-débatteurs que je suis l'aîné. Et être aîné, c'est-à-dire que celui qui donne des conseils, apprendre ou à laisser. Je n'impose rien du tout. J'ai bien dit que quand Bemba est sorti de la prison, je suis passé à une télévision, j'ai prodigué des conseils à prendre ou à laisser. Moi, je ne suis pas dictateur, vous comprenez? J'ai donné des conseils à Takéné. Candidat président de la République, c'est une grande démarche. Hein? Il faut réunir les moyens de sa politique. Hein? Vous comprenez? Alors, quand je fais allusion à sa chambre, ce n'est pas ce que les autres comprennent. Bemba, c'est un grand monsieur. Il a un appartement, il peut avoir une maison en Europe, etc. Après la prison, on rentre chez soi d'abord.
Et comment
c'est,
vous
comme ça, c'est comme ça l'Africain.
Comment vous commentez la réaction de
MLC? J'arrive.
N'exclut pas les boycotts.
J'arrive. Dès qu'on quitte la prison, on rentre chez soi pour être attentif au conseil des frères, des tantes, des oncles, pour qu'on vous trace la voie à suivre. Babaklo soit en moto, Olongolabou toutou. C'est ça que nous. On est Africains, c'est ça, papa. Vous comprenez? Alors, si vous allez en dehors des conseils africains, ce n'est pas bon. Deux, en ce qui concerne le boycott, non. Non, ça en est trop avec des guerres. Ça en est trop avec des incompréhensions politiques. Aujourd'hui, le peuple où tout le monde parle du peuple. Le peuple souffre sérieusement.
Est-ce que ce n'est pas une réaction normale, n'est-ce pas, d'une personne qui s'est investie, n'est-ce pas, par rapport à cette élection, mais qui, à la fin, il voit sa candidature être mise à l'écart.
Je dis ceci, que lui-même Bemba fait toujours allusion à une démarche d'élégance, à une démarche respectueuse des vertus républicaines. Il n'a jamais fait allusion au boycott, aux menaces, à envoyer les gens dans la rue. Non. Lui-même fait allusion à des éléments, des valeurs. Vous comprenez? Alors, il ne faudrait pas que les proches collaborateurs de Bemba puissent le dire en erreur. Je dis que ce n'est pas trop tard. Il peut devenir, on ne veut pas toujours président de la République, il peut devenir président du Sénat. Je ne sais pas, lors de présidence ici chez nous, hein, si c'est le Sénat ou l'Assemblée nationale, qui précède sur qui, je ne sais pas, il peut devenir président du Sénat. Il a de la valeur, n'est-ce pas?
Il serait la deuxième personnalité du pays.
Alors, où est le mal? Les
conflits sont là, tu es là. J.R. Mokolo, Jean-Pierre Bemba et Mouzito écartés, l'opposition devra désormais, n'est-ce pas, se tourner vers Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou et Freddy Matungulu. Et le défi à relever, c'est celui de la désignation des candidats communs, et comme le préconisent certains analystes. Est-ce que vous pensez que l'opposition sera en mesure de trouver cette candidature commune?
Oui, 30 secondes pour rebondir quand même sur ce que M. Sahel Mbalanga a dit.
Non, ça devient un jeu de ping-pong.
Répondez à la question.
S'il vous plaît, je veux
orienter, agir, répondre.
Je vous comprends,
et
mais
non,
est-ce que
venir sur moi.
Vous lui reconnaissez les droits de réagir à vos propos?
Je ne sais pas si ce qu'on...
Sommes en débat, non?
Non,
c'est un débat d'idées.
C'est un débat d'idées. Je respecte les dires.
Mais est-ce que vous pouvez lui permettre de dire
Non, qu'il réponde à vos
questions. J'ai répondu, répondez.
Allez-y, je vais répondre aussi.
Voilà, vous allez réagir.
Non, il n'y a pas de problème, il m'a même coupé les fils d'idées. Je voulais tout simplement dire que je me rends compte que ce sont pratiquement les mêmes éléments de langage qu'on retrouve chez Mende, qu'on retrouve chez Félix Kabangenoumbi. On dit que voilà, et pourquoi Bemba devait s'acharner, devait se battre, faire tout pour être candidat président. Comment on doit, est-ce que c'est un péché d'être candidat de la République? Donc Bemba a commis un péché de lèse-majesté en se présentant comme candidat à la présidence de la République, de la même façon que Katumbi aussi, on voulait se présenter, c'était un péché de lèse-majesté, que le poste de président est réservé à une famille politique. Deuxièmement, vous parlez, la candidature commune, ça devient un peu problématique, comme je l'avais dit l'autre fois, Guy Maté. Pourquoi? La majorité, disons la justice, en faisant, par exemple, en écartant les opposants les uns après les autres, crée quand même des fissures au niveau de l'opposition et les gens ne se font pas mutuellement confiance parce qu'on a senti par exemple que lorsque Moïse Katumbi avait été empêché de se présenter, il y a des opposants qui ont trouvé que c'était une aubaine pour eux. Et avec l'éviction de Bemba et d'Adolphe Mouzito, apparemment il y a des opposants aussi qui applaudissent, qui disent non, ils sont maintenant restés maîtres sur terrain, mais ils ont l'obligation en tout cas de se retrouver, de se pardonner mutuellement, d'oublier leurs sentiments, leurs ambitions personnelles, leurs égos, parce que tout le monde le dit. Bemba l'a dit, Kamere l'a dit, beaucoup de gens le disent aussi, même Kengo l'a dit aussi. Si jamais l'opposition s'est présentée au nom de 10 personnes à cette élection, ça va servir de prétexte pour que Nanga, avec sa machine à voter, avec ses 16% d'enrôlés sans empreinte digitale, puisse en tout cas proclamer d'avance Chadari comme vainqueur de cette élection et que les chars de combat sont là pour imposer ces résultats.
Gaston Moussid, par rapport à ces défis que l'opposition doit relever, les défis d'avoir une candidature commune, quel est votre point de vue?
Je pense que ce n'est pas encore trop tard. J'ai appris que Adolphe Mouzito et Moïse Katumbi-Djapoué, qui se sont vus en Belgique, proposaient que d'autres candidats communs de la présidentielle puissent le rejoindre et qu'ils puissent tabler sur des stratégies. Mais je ne sais pas comment ça va se passer, parce que quand il y a des gens comme Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mouzito et même Moïse Katumbi qui sont récalés, qui ne peuvent plus être candidats, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut soutenir Félix Tshisekedi? Il faut soutenir Martin Fayoulou? Je crois que l'opposition a intérêt à se réunir et à voir comment elle peut faire pour pouvoir créer un équilibre. Ma crainte, c'est quoi? C'est que si jamais, au cours de ces assises, ils acceptent de boycotter les processus, à ce moment va tout droit dans l'avantage du FCC. Donc ils ont intérêt à demander à ce que leurs partisans puissent participer au vote et de se souder les coudes pour soutenir un seul candidat unique.
Oui, Gaston Mouchid, Marie-Josée Ifoku est l'unique candidate dans cette élection. Est-ce que cette dame peut surprendre?
Non, du tout. Hein. C'est un nom que même nous, les journalistes, on n'a pas l'habitude de citer parce que c'est quand même quelqu'un qui a de l'ambition. C'est une dame qui veut aller de l'avant, mais il fallait une préparation. Il faut se faire un nom dans ce pays pour prétendre aux hautes charges de la République. Donc cette dame, pour moi, elle ne pèse pas sur les sondages que se veut le Congolais autour de la présidentielle de 23 décembre prochain.
Oui, Saïlé Mbalanga, c'est vrai que bon, on dit que Marie-Josée Ifoku n'est pas très connue, mais elle a été vice-gouverneure, n'est-ce pas, de l'Équateur, et pour le moment, c'est elle qui représente l'Équateur dans cette course à la présidentielle. Est-ce qu'elle peut, elle peut surprendre?
Bon, je ne suis pas dans le secret des dieux. Hein. Prendre 100 000 dollars, déposer dans le compte du Trésor, ça veut dire que quelque part, on se préparait. Si on ne devient pas président de la République, peut-être celui qui passera président de la République pourrait jeter un coup d'œil de curiosité autour de la madame pour dire, voilà madame, vous venez, vous serez vice-ministre âgé 2, ou bien vice-président, premier ministre âgé 2. Voilà, c'est vraiment attirer l'attention de ceux qui font la politique active. Et c'est quand même courageuse, hein. On dit souvent que la parité, homme-femme, etc. Mais elle a osé, et qui ne risque rien à rien. J'ouvre une parenthèse, une deuxième, pour terminer là-bas, que je ne suis pas contre mon frère Bemba. J'ai proposé tout simplement, comme il vient de rater, par des combines politiques, l'espace présidentiel, candidat présidentiel, alors qu'il s'essaye au niveau du Sénat, pour devenir d'abord député provincial à Guémena, ensuite demander aux députés provinciaux de l'élire comme sénateur, et dès qu'il viendra sénateur, il va venir ici à Kinshasa, il va négocier les postes au niveau du bureau. Où est le mal dans tout ça?
Jérôme Colo, l'Équateur qui voit un de ses fils sur qui il comptait, n'est-ce pas, Jean-Pierre Bemba, écarté, est-ce que l'Équateur ne va pas opter pour la candidature de Mme Marie-Josée Ifoku?
Bon, l'Équateur, en tout cas, je ne crois pas que Bemba était un candidat de l'Équateur. Bemba n'appartient pas qu'à l'Équateur, appartient à tout le Congo. Et quand même, vous devez vérifier, par exemple, dans son entourage. Et même
les électeurs de Bemba ressortissants de l'Équateur.
Non, pas nécessairement.
Est-ce qu'il ne va pas opter pour...
Pas nécessairement. Madame Marie-Josée Ifoku, comme l'a dit mon confrère de Kolwezi, en tout cas, c'est un illustre inconnu. Elle n'est pas connue, je ne
mais
crois pas.
Mais c'est une
pas
dame, hein, il faut pas l'oublier. Hein. C'est une dame, n'est-ce pas, qui fait face à 20 ans.
Il ne suffit pas d'être une dame pour avoir les chances d'être élue. Il faut avoir tous les atouts, il faut avoir tous les moyens. Bemba avait des atouts comme, par exemple, avoir le moyen, les avions propres, avoir de quoi battre campagne, un budget de campagne. Moïse Katumbi aussi avait les grands atouts aussi. Mais ceux qui restent au niveau de l'opposition, je crois qu'ils ont beaucoup de handicaps parce que les rapports de force aujourd'hui entre l'opposition et la mouvance présidentielle sont vraiment déséquilibrés parce que la mouvance présidentielle aujourd'hui est en train d'utiliser même les moyens de l'État. Il y a mené une confusion. On est dans une espèce de parti-État du Mobutisme sans Mobutu, Dixit, Joseph Olengankoy, où des ministres, vous vous rendez compte par exemple, pour annoncer la création du FCC, ça s'est passé dans une propriété privée. Par exemple, c'était un conseil des ministres, compte rendu d'un conseil des ministres où on annonce la création du FCC. Et même les,
qui est
pour annoncer,
fait, voilà, fait privé.
Tout à fait. Même pour annoncer les noms du candidat du FCC, ça a été fait par les ministres de la communication dans son cabinet des ministres. Vous vous rendez compte? Donc, il y a maintenant une confusion terrible entre l'État et le parti privé, tout ça.
Est-ce qu'il y a moyen de dissocier les deux choses, surtout quand on est au pouvoir?
Non, la mentalité...
Ce n'est pas facile, hein,
on est en train pratiquement de recourir à la mentalité de l'époque du maréchal. Il y a comme une conjonction entre les mobutistes et les kabilistes. Les mobutistes ne voulant pas, en tout cas, revivre la même chose qu'ils ont vécu à l'arrivée de l'AFDEL, et les kabilistes profitant maintenant de l'expérience passé par les mobutistes, font tout en tout cas pire pour ne pas perdre les pouvoirs. Merci. Comme les mobutistes l'ont perdu en mon ancêtre. Et voilà aujourd'hui en tout cas une conjonction des forces, des stratégies, des idées pour faire tout pour que les pouvoirs soient en tout cas gardés par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui pendant 80 ans ou un Merci. Siècle, comme disait Bitakura.
Merci. Nous passons à notre deuxième thème. Clôture mardi dernier à Pékin en Chine, 17e forum économique entre la Chine et l'Afrique. Au cours de ces assises, le président chinois a promis que son pays va investir 60 milliards de dollars sur le continent. Selon Xi Jinping, les investissements chinois en Afrique viennent sans aucune condition politique. Presque tous les pays africains y ont été représentés au plus haut niveau, tous porteurs de projets cherchant des financements. Ce forum a également été l'occasion pour certains États africains de renégocier leurs dettes avec la Chine, qui a pratiquement détourné le continent noir de son partenaire traditionnel, qui est l'Occident. On écoute Israël Moutala, journaliste et analyste économique, au micro de Daniel Tambinzoni.
Mon analyse par rapport à cette ruée de chefs d'État africains est toute simple. L'Afrique a un besoin criant en investissement pour des travaux d'infrastructure. Il s'est fait qu'ils ont besoin de capitaux importants pour justement bâtir leurs infrastructures. Et la Chine a des réserves d'échange importantes qui peuvent faire ce que les infrastructures dont manque cruellement l'Afrique soient financées. C'est ce qui fait que beaucoup de chefs d'État ont fait le déplacement du 7e forum de coopération sino-africaine. Il faut le rappeler, l'Afrique ne peut pas se développer si elle ne développe pas d'abord ses infrastructures, notamment routières, notamment énergétiques.
Et la Chine, qui dispose 60 milliards de dollars américains sur 3 ans pour les gouvernements africains, vous pensez que c'est suffisant?
C'est pas suffisant. Les besoins en infrastructure de pays africains sont colossaux. Mais il faut dire que les 100 milliards qu'a disponibilisé la Chine sur 3 ans est un pas. Mais dans une relation bilatérale entre l'empire du milieu et les pays africains, c'est une somme à ne pas négliger. Dans un contexte où l'argent est de plus en plus difficile à trouver, les partenaires traditionnels des Africains, que sont les Occidentaux, offrent de moins en moins de financement de capitaux. L'aide publique au développement n'est pas respectée et même quand elle est respectée, l'aide occidentale en matière de financement est souvent assortie à plusieurs conditionnalités.
La République démocratique du Congo est également présente à ces grands forums. Que pourrait être le besoin de la RDC à présenter à ce forum?
Je pense que la RDC a beaucoup à y gagner. Si elle y va là-bas avec des projets bancables, des projets intégrateurs, il y a déjà un projet qui est très avancé, le projet de Inga 3, qui est chiffré à peu près à 12 milliards 500 de dollars comme coût d'investissement pour une capacité de 4800 mégawatts. Je pense que si la RDC présente bien ses projets là-bas, on peut justement lever ses fonds et financer le projet d'Inga.
Gaston Mouchid, journaliste et directeur général de la radio-télévision Manika Kolwezi, province de Lualaba. Et comment vous analysez cette initiative de la Chine?
Nous, ici en RDC, nous avons déjà entamé une coopération avec la Chine. Je m'en veux pour preuve les contrats qui a été signé entre la République démocratique du Congo et les les consortiums chinois. Je parle de cet accord qui a été signé le 17 septembre 2007 et le 22 avril 2008 respectivement, un protocole d'accord et une convention de collaboration avec un groupe d'entreprises chinois. Et ces collaborations prévoyaient la construction et la modernisation des hôpitaux, des universités, des logements, des routes, des chemins de fer en échange de l'exploitation des ressources minières, notamment à Kolwezi, dans ma province, où les consortiums chinois qui s'appellent Sicomin devaient prendre 10 millions de tonnes de cuivre et 650 000 tonnes de cobalt pour soutenir les infrastructures que je venais de citer à l'échelle de... Les contrats étaient d'abord de 9 milliards, réduits par la Banque mondiale, on est arrivé à 6 milliards 200. Et quand vous voyez, vous analysez les rapports, aujourd'hui voici 10 ans, la Chine a commencé à coloniser, à exploiter déjà les cuivres et les cobalts, mais est-ce que la RDC a bénéficié des hôpitaux, des universités, des logements sociaux, des routes équivalentes à l'argent qui a été donné par la Chine? Je pense que non. À Kolwezi, si, il s'est passé un vrai problème. Moi, je me rappelle, avec Thierry Michel, quand on faisait le film Katanga Business, nous avons été à Pékin et nous avons côtoyé la partie chinoise et la partie congolaise. Tout le monde parlait du contrat du siècle. On a parlé de gagnant-gagnant. Mais 10 ans plus tard, les Congolais sont sceptiques. Ici, à Kolwezi, où Sicomin est en train d'exploiter dans la carrière de Machamba et de Dikoulwe, c'est en fait un gisement qui s'appelle Dima, Dikoulwe et Machamba Est, les gens qui vivent autour. Il y a une cité qui s'appelle Kapata, construite par la Chekamine. Mais ces gens-là n'ont pas de l'eau, n'ont pas toujours de courant. Alors qu'à l'époque de la Chekamine, ils avaient les courants, ils avaient de l'eau, parce qu'il y a des délestages. Ils n'ont pas les courants, ils n'ont pas d'eau. À Moussonoy aussi, les gens souffrent. Les routes sont complètement délabrées.
Merci.
Je me dis, cet investissement de Chinois, est-ce que ça profite à la population congolaise? Dis-moi, je vais terminer par dire que les Chinois à Kolwezi sont eux-mêmes en train de rouler les camions. Ils sont eux-mêmes opérateurs des engins. Les Congolais qui attendent le boulot, qui attendent l'emploi, que vont-ils devenir? Ces contrats-là, je pense qu'avec le Chinois, c'est un bon contrat si les gouvernements, eux, regardent. Si on peut faire respecter les clauses et les lois de la République. Autrement, c'est
merci.
Une exploitation, c'est un bradage de nos ressources minières.
Merci, Boudouin Saïd, journaliste et éditeur de la Tchopo, journal paraissant à Kinshasa. C'est une question qui revient souvent. Et quelle pourrait être la contrepartie économique de ces partenariats pour l'Afrique? Vous venez de suivre Gaston Mouchid qui relève le fait que par rapport au contrat chinois, et la RDC n'avait rien bénéficié. Et dans ces contrats, il était prévu que les hôpitaux, les universités, les routes devaient être construites, mais il s'est rendu compte que les Chinois sont en train d'épuiser, n'est-ce pas, nos cuivres et nos cobalt, pendant que nous, on n'a pas bénéficié de ces 6 milliards 200 millions qui ont été investis ici chez nous. Quelle pourrait être la contrepartie, n'est-ce pas, des Africains dans ces partenariats avec la Chine?
Chers confrères, je n'hésiterai pas de me rappeler des messages importants de Moïse Kabila à l'époque. Hein. Quand il est arrivé au pouvoir, il avait dit « Congolaises et Congolais, prenez-vous en charge. Si nous ne le faisons pas, on va toujours continuer à tendre la main comme ça. » 60 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. Je n'en ai pas d'ailleurs.
Pour toute l'Afrique.
Je dis, n'est-ce pas, si nous faisons un petit calcul, arithmétique rapidement. Je ne sais pas s'il y a combien de pays africains qui sont dans ce dossier. Si on fait 60 milliards divisé par 57 pays, par exemple, vous trouvez à peine 1 milliard par pays. Donc 1 milliard pour le compte de la RDC, je ne sais pas, ça va servir à quoi? Non. Reprenons le message de Moussa. Mettons ça en pratique. La République ne peut pas attendre 1 milliard de Chinois. Nous avons le pétrole de Moanda. Organisons-nous à ce que ce pétrole soit exploité chez nous, traité chez nous, pour qu'il y ait nos dividendes chez nous. Si on n'est pas capable de le faire, appelons des partenaires pour que ça se fasse chez nous au Congo. Il y a des exploitations des mines d'or partout. Mais quelle est la dividende du Congo? Non. Je ne sais pas si je peux proposer au gouvernement de la République, avant ou après les élections, qu'il y ait eu une énième conférence nationale pour que nous passions de la parole à l'acte. Il faudrait que le peuple sente quand même que j'allais au marché avec 1500 francs. Aujourd'hui, avec la prise de conscience du Congolais, mon épouse va au marché avec 20 000 francs. Il faudrait qu'on sente que dans une école, les enfants ne sont pas pieds nus. Il faudrait qu'on sente que vous allez à l'hôpital, au lieu de vous exiger de l'argent, le médecin ou l'infirmière vous prenne en charge. Parce qu'on dit souvent que c'est psychologique, hein. 90% des maladies sont psychosomatiques. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui domine. Donc nous voulons, demain ou après-demain rapidement, qu'on arrive à bien manger 3 fois par jour. Ce n'est pas impossible,
mon frère Guimaté. Merci, Jérôme Colo, journaliste et producteur du magazine d'information à CCTV, une chaîne émettant de Kinshasa. Baudouin Saïlé dit que la RDC ne doit pas attendre 1 milliard de la Chine. Il y a même le professeur Kabea Tikuku qui a déconseillé l'euphorie, qui a demandé aux Africains d'y aller avec beaucoup de prudence. Il estime que ce ne sont pas les capitaux qui manquent à l'Afrique.
Saïd Mbalanga a raison de rappeler les propos de Moussa. Prenez-vous en charge. Et moi, je vais me remémorer en tout cas les dictons chinois qui dit « Si tu me donnes un poisson, je mangerai un jour, mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. » Moi, je pense que quand on nous donne 60 milliards pour toute l'Afrique, ça il a fait des calculs, ça peut être à peine 1 milliard pour chaque pays sur 3 ans, donc ça ferait pratiquement 333 millions de dollars par an. Qu'est-ce que ça vaut par rapport aux grands besoins de reconstruction des besoins que nous avons ici au Congo? Ce que nous devons faire, quoi, en me référant à ces dictons chinois, c'est aller auprès des Chinois, envoyer nos enfants aller étudier là-bas, faire des recherches pour domestiquer les savoirs, domestiquer la technologie et savoir quelle est la recette que la Chine a utilisée pour que la Chine qui mourait, dont la population mourait de faim et de maladies au début du XXe siècle, aujourd'hui c'est un pays émergent qui fabrique presque tout. Comment faire par exemple qu'à partir de nos richesses, nous puissions fabriquer la majorité des choses que nous produisons? Nous avons essayé avec, par exemple, Bukangalonzo ici, avec l'appui des Sud-Africains, et pourtant nous avons nous-mêmes des ingénieurs agronomes vétérinaires, et ça a échoué. Nous importons pratiquement tout, même les cure-dents, tout guimaté. Et ce que nous savons fabriquer seulement peut-être des pirogues et des pagaies. À partir par exemple, de notre cuivre, comment on peut fabriquer des câbles électriques au lieu d'importer des câbles électriques? Comment est-ce qu'on peut arriver, par exemple, à partir de nos matières premières, fabriquer une voiture de A à Z par les Congolais et avec des pièces produites par les Congolais?
Et à cet effet, pour se poser ce genre de questions, il faut une certaine révolution culturelle, comme l'a prôné les professeurs Kikuku.
Il faut une révolution culturelle. Il ne faut pas que la révolution soit seulement sur le plan politique. Nous devons changer de mentalité. Le président dernièrement a regretté de n'avoir pas changé la mentalité des Congolais. Je crois qu'on aurait dû changer cette mentalité pour qu'on ait une mentalité de développement et non une mentalité de sous-développement.
Merci.
Et faire en sorte qu'on quitte l'économie des cueillettes où il faut prendre tout ce que la nature nous a donné pour aller vendre, pour une économie de production sur place de ce dont nous avons besoin à partir de nos propres richesses en renforçant les capacités de nos enfants.
Merci.
Rien que ça.
Merci.
Si on ne domestique pas la technologie, si on n'apprend pas ce que les autres ont fait pour se développer, nous allons passer notre temps comme ça à parler sans se développer. On peut jeter des milliards dans ces pays, rien ne changera parce que ces milliards risquent de tomber dans les poches des particuliers qui vont s'enrichir aux dépens de l'État congolais,
voilà,
et de la population.
Gaston Mouchid, l'Afrique a des partenaires classiques. Et comment pourrait-elle gérer ses partenariats avec la Chine sans pour autant gêner les intérêts, n'est-ce pas, de ses partenaires traditionnels que sont les pays occidentaux?
Que ce soit les partenaires occasionnels, que ce soit les anciens partenaires avec lesquels on a travaillé voici plusieurs années, je pense que le pays devra s'organiser. Comme venait de dire mes prédécesseurs Baudouin Saïlé et J.R. Mokolo, je suis d'avis que nous devons nous organiser pour que cette richesse, on parle de scandale géologique quand on parle de la RDC, mais ces scandales-là, on ne le voit pas à travers le panier de la ménagère. Je vous donne un exemple qui va vous énerver. Nous sommes au Kalualaba, où nous venons de vivre l'embellie. Les cuivres et les cobalt sont montés, si bien qu'une tonne de cobalt s'est vendue à 100 000 dollars. Mais vous avez KCC, Mumi, Boss Mining, TFM, Washi Mining, et j'en passe. Toutes ces sociétés privées-là ont une bonne santé financière. Mais la GK Mine, la société d'État, est devenue une société sans carrière ni mine.
Merci.
Parce qu'aujourd'hui, la GK Mine n'a plus de carrière, n'a plus de mine. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas donner un peu plus de pouvoir à la GK Mine, qui est une société d'État, pour que nous puissions aussi bénéficier de l'embellie que de tout vendre au privé?
Merci, monsieur Baudon Saïlé. Un mot en guise de conclusion.
Je demande à tous ceux qui font de la politique active de mettre un peu d'eau dans le vin, pour qu'il n'y ait pas apocalypse dans ce pays.
Jérôme Colo, votre conclusion?
Moi, je conseille à tous les gestionnaires de l'État d'apprendre en tout cas à respecter les droits de l'homme, parce que demain, si vous n'êtes plus au pouvoir, qu'on viole vos droits, vous saurez comment ça fait mal.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Bob Landou qui était à la technique et à Alain Rung qui a réalisé et coordonné cette émission sous la supervision de Pelé Kipena Mundo. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Okapi.